Question d'islam par Al Ben Sheikh. Aujourd'hui, nous parlons de magie en contexte islamique, de sciences occultes aussi, avec Jean-Charles Coulon. Jean-Charles Coulon, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes chargé de recherche à la section arabe de l'Institut de recherche et l'histoire des textes, qui fête ses 80 ans aujourd'hui. Vous êtes historien des sciences occultes, vous vous intéressez à la magie en contexte islamique, tout particulièrement de la période dite médiévale, mais vous embrassez toute la fresque historique du fait islamique. Merci de nous faire l'amitié de venir.
Merci à vous pour l'invitation.
Merci. Je suis sûr que nos auditeurs seront intéressés par ce que vous allez nous dire. Alors, d'abord, pourquoi étiez-vous intéressé par ces questions de magie, de fantasmagorie, de sciences occultes, du merveilleux, du mystérieux, de l'irrationnel en contexte islamique?
Tout d'abord, je dirais que c'est un attrait pour effectivement le merveilleux et le fantastique que j'ai depuis tout jeune. Ce sont souvent des histoires qui font rêver, pas seulement les djinns et les éphrites, mais d'une manière générale, les histoires merveilleuses. Et progressivement, en faisant mes études, j'ai vu que la magie était très importante dans toutes les sociétés, qu'elles étaient souvent mises en marge de la société tout en étant très présentes, souvent aussi mises en marge de la religion, où elles servent un petit peu de pendant maléfique de la religion. Beaucoup de religions, en fait, se sont construites avec une certaine opposition à ce qu'elles qualifient de magie, et même très souvent, les définitions de la magie se font par opposition à celles de la religion. On dit même que les anthropologues qui tentent de définir la magie pure, en fait, en reviennent toujours d'abord à des définitions de la religion pure.
Pour le monothéisme abrahamique, il y a une réelle défiance quant à tout ce qui relève de la magie. On le voit dans le judaïsme, dans le christianisme et dans l'islam.
Oui, effectivement, il y a à la fois une condamnation. Cependant, ce que nous appelons magie ne correspond pas forcément à la définition qui existait autrefois. Donc certaines pratiques que nous qualifions de magiques, en réalité, pouvaient être des rituels de guérison qui n'étaient pas considérés comme magiques au sens négatif du terme.
Alors maintenant, l'islam particulièrement a supposé encore que l'opposition islam, Occident, Orient, Occident puisse avoir sa pertinence encore de nos jours. Mais l'Orient a été fantasmé, magnifié. Ça commence déjà, si on devait prendre un repère dans l'histoire, avec les mille et une nuits.
En fait, l'Europe a peu découvert l'Orient avec les premiers orientalistes, et les Mille et Une Nuits font partie des premiers textes qui ont intéressé effectivement en Europe. Alors le problème que posent les Mille et Une Nuits, c'est qu'on n'avait pas d'édition fiable, et les premières versions sont en fait aussi des reconstructions de ces Mille et Une Nuits. Donc c'est un monument qui a été très important pour forger l'imaginaire occidental sur le monde arabe et l'Orient, et qui en réalité est vraiment une construction littéraire qui s'est faite principalement en Europe. Les contes des Mille et Une Nuits ont fait deux vies, une en Occident et une en Orient, et les deux sont parfois assez différentes.
J'y pense parce que il y a toutes les histoires du génie, la lampe d'Aladin, la lampe merveilleuse. Donc ça, ce n'est pas de la magie pure, mais ça relève encore une fois du merveilleux, de l'extraordinaire.
Oui, effectivement, les Mille et Une Nuits, en fait, ont contribué à faire connaître ce qu'on pourrait qualifier de mythologie arabe, c'est-à-dire tous ces êtres merveilleux qui peuplent la littérature arabe et que l'on retrouve dans les écrits donc des grands prosateurs arabes, mais aussi des théologiens. C'est notamment, par exemple, à l'époque romantique que se sont popularisés les termes de djinn, de ghoul, donc de l'arabe roul, qui désigne une sorte de djinn particulier, ou les ifrites, donc ifrit en arabe, et qui désigne également un type de djinn particulier.
Oui, alors il s'agit certes des ifrites, des ghouls, des djinns, des farfadets, qui peuplaient l'imaginaire. Arabes uniquement ou arabo-persans ou de cette région du monde? On dépasse la péninsule arabique ou jusqu'en Transoxiane, ou on est uniquement dans la péninsule arabique?
Ça dépend à quelle époque. Pour l'époque plus moderne et contemporaine, effectivement, c'est un imaginaire largement partagé, à ceci près qu'il y a des spécificités entre les mondes turcs, persans ou arabes. Par exemple, dans le monde persan, on trouve les divs, qui sont des sortes de génies également, qui ne se confondent pas avec les djinns, alors que le monde arabe ne connaît pas les divs. Et de même, beaucoup de djinns particuliers sont très présents dans le monde arabe et assez peu dans le monde persan. Donc il y a quand même des différences mythologiques entre la culture arabe, la culture persane et la culture turque.
Oui. Alors on reste toujours dans cette idée à la charnière 19e, début 20e siècle, que l'Orient représente l'étrange, l'étranger, les bizarreries, enfin quelque chose qui ne tombe pas sous le coup de la rationalité. Ce n'est qu'après coup qu'on sort de cette vision où elle est encore présente dans l'esprit de nos contemporains occidentaux, j'entends.
C'est encore très présent à l'époque contemporaine. Parmi les exemples que je prends souvent, c'est le conte d'Aladin qui est abondamment repris. La version la plus célèbre aujourd'hui, c'est celle de Disney, mais il y a eu aussi beaucoup d'autres films qui l'ont repris. Donc c'est quand même un imaginaire qui est très présent. L'autre exemple qu'on peut prendre, c'est les nombreux jeux vidéo ou jeux de cartes aussi qui reprennent les djinns, les ghouls et les autres démons. Donc ce sont des entités très présentes désormais dans la culture populaire.
Prenons un exemple avant que la magie soit ou fasse l'objet d'études à part entière et qu'on s'y intéresse d'une manière académique, universitaire. Scientifique, si je puis dire. Vous évoquez, Jean-Charles Coulon, l'histoire du Necronomicon. Qu'est-ce que c'est ? J'ai ma petite idée, mais j'aimerais bien vous entendre là-dessus.
Alors, le Necronomicon, c'est une création de l'écrivain Lovecraft. Donc, il s'agit d'un livre qui rendrait fou ceux qui le lisent, tellement les secrets qu'il contient sont inconcevables pour l'esprit humain. En fait, le Necronomicon n'a jamais existé en tant que tel, c'est une construction littéraire qui passe pour être en fait la traduction en grec d'un ouvrage arabe qui s'appelle Kitab al-Razif, qui désigne en fait, le terme Razif désigne le bruit du vent dans les dunes et était censé être la voix des djinns. C'est ainsi que le définit Ibn Manzur dans le Lisan al-Arab.
Ibn Manzur étant un lexicographe connu et qui maîtrise tout le champ sémantique et philologique de la langue arabe.
Oui, tout à fait. Son dictionnaire répertorie de très nombreuses significations aux termes arabes et il compile notamment beaucoup de lexicographes antérieurs. Donc plus qu'un simple dictionnaire, c'est une compilation de dictionnaires nettement enrichis.
Azif, c'est... qui donnera lieu celui qui joue sur tel ou tel instrument de musique de nos jours, mais c'est effectivement le bruit du vent dans le désert.
Oui, effectivement, beaucoup de termes ont évolué. Par exemple, le terme de hatif, qui désigne aussi le téléphone, était autrefois la voix que l'on entend dans le désert et donc qui avait aussi un sens particulier dans l'imaginaire arabe, avant de devenir le téléphone d'aujourd'hui.
Elle est étonnante, la filiation comme ça et l'évolution ou l'usage des noms, notamment en langue arabe, quand on voit leur étymologie et leur origine. Depuis quelqu'un qui s'usure ou qui parle dans le désert, on finit par avoir le téléphone, en quelque sorte.
Qui est une voix aussi qui vient de nulle part, en quelque sorte.
Il y a une réelle... logique qui sous-tend cette évolution de sens, effectivement.
C'est la voix de l'absent ou de l'invisible, en quelque sorte.
Oui. Jean-Charles Coulon, revenant donc au Necronomicon, cette histoire de l'arabe démon, et comment se fait-il que cette fiction, son auteur, donc Howard Phillips Lovecraft, c'est en 1937, il donne le nom d'Abdul al-Khazrad. C'est une invention.
Oui, tout à fait, c'est une invention. On le voit d'ailleurs puisqu'il y a un doublement de l'article entre Abdul et al-Khazrad. En réalité, c'est pour essayer de recontextualiser historiquement son livre de fiction, il attribue même une notice biographique à cet auteur-là qu'il fait remonter à Ibn Khallikan. Alors évidemment, Ibn Khallikan, un célèbre biographe, n'a jamais fait de notice sur cet auteur-là, mais il s'agissait d'un des rares dictionnaires biographiques qui était traduit en langue occidentale à l'époque, donc qui était très connu même d'un public non arabisant, et c'est pour cela qu'il a manipulé en quelque sorte, pour donner plus de crédibilité à la biographie de son personnage, une notice fictive dans l'ouvrage d'Ibn Khallikan.
Dans son esprit, c'est une entourloupe ou une, pardonnez-moi le terme, mais peut-être un peu fort dans ma bouche, une sorte de tartufferie ou d'escroquerie morale parce qu'on ne va pas vérifier ou c'est simplement chercher la caution du biographe Ibn Khallikan, alors qu'il prétend qu'il en a parlé et ce n'est pas vrai puisque tout chercheur pourra s'en rendre compte. Qu'est-ce qui a motivé notre ami Howard Phillips Lovecraft?
Alors, je pourrais pas vous dire dans la mesure où je ne connais pas spécifiquement Lovecraft, qui n'est pas mon sujet d'étude. En revanche, c'est vrai que le dictionnaire biographique était très connu. À mon avis, c'est plutôt pour mieux contextualiser l'œuvre. Je suis pas sûr qu'il y avait un but de tromper tout le monde en faisant une référence à ce dictionnaire biographique.
Si vous me pardonnez l'impudeur de me mettre un peu en avant, j'ai le Necronomicon dans ma bibliothèque. J'avoue que je ne l'ai jamais fini, pas parce que j'appréhendais de devenir fou. Celui qui me l'avait passé m'a dit « moi, j'en veux pas ». On m'avait dit qu'on finirait par être aveugle une fois qu'on l'aura terminé. Je ne crains pas pour ma cécité, simplement je n'ai pas eu le temps de le finir. On le lit de nos jours, le Necronomicon ?
Principalement les amateurs de l'univers de Lovecraft. En réalité, c'est un livre qui n'a pas existé, qui a été écrit a posteriori pour poursuivre l'œuvre de Lovecraft. Mais évidemment, il n'y a pas d'original, même si Lovecraft donne beaucoup de détails sur la transmission et l'histoire de ce texte fictif.
Ben, Lovecraft est mort en 1937, pour donner une idée. Alors, revenons à vos sources à vous. Il y a l'œuvre d'Al-Bouni, quelqu'un qui est mort en 1225. Oui. Et c'est un Bonois. Il est d'Algérie, oui. De l'actuelle Algérie. Il est d'Hippone. Oui. Et donc, c'est son livre « Le soleil des connaissances » qui est une sorte d'œuvre majeure pour tous votre champ d'intérêt.
Oui, effectivement, mes recherches en fait ont commencé avec pour projet d'éditer ce texte qui est le « Shams al-Ma'arif ». Qu'on trouve.
C'est l'appellation arabe du soleil des connaissances.
Oui, tout à fait. En réalité, c'est un livre qui est à la fois très connu et qui était très méconnu dans le champ académique, dans la mesure où il n'y avait pas d'études proprement historiques sur ce texte. Or, c'est un texte qui pose beaucoup de difficultés. Donc aujourd'hui, on le trouve communément sous l'appellation de Shams al-Ma'arif al-Kubra, donc le grand soleil des connaissances, qui est une version tardive de ce texte. En réalité, si on remonte aux origines et à l'auteur Al-Bouni, c'était un mystique qui a écrit plusieurs traités. Et l'un d'eux, probablement perdu, s'appelait Shams al-Ma'arif. On retrouve ensuite, un siècle plus tard, une compilation de sciences occultes qui reprend beaucoup d'éléments des œuvres authentiques d'Al-Bouni, qui s'appelle également Shams al-Ma'arif, avec pour nom d'auteur Al-Bouni, alors qu'en réalité il s'agit d'un texte plus tardif. Et ensuite, l'engouement pour ce texte va donner au XVIe-XVIIe siècle cette version longue, quatre fois plus volumineuse, qui est une immense compilation de sciences occultes.
Et parmi les sources sur lesquelles vous avez travaillé, Jean-Charles Coulon, on trouve la littérature de cour. Il y a un terme arabe quasi intraduisible qu'on appelle al-adab et qu'on peut rendre par humanité au sens quand on fait ses humanités. D'autres y voient même de l'humanisme, d'expression arabe. En tout cas, cette littérature a mis en avant ces questions relevant du merveilleux, de l'extraordinaire, du magique aussi.
Oui, tout à fait. En fait, l'adab, c'est l'ensemble des connaissances qui permettaient à un gentilhomme de briller à la cour. Donc, c'est une sorte de culture générale pour une élite politique et sociale. Et c'était même un critère distinctif et identitaire de cette élite. À savoir que quelqu'un qui ne maîtrisait pas cet adab ne pouvait pas passer pour être quelqu'un de bien éduqué et appartenant à la haute société. Or, dans cette littérature d'Adab, on a énormément d'anecdotes, puisque ça regroupe aussi beaucoup d'anecdotes merveilleuses, historiques, des faits plaisants, beaucoup d'anecdotes et de vers de poésie également. Et évidemment, on a dans ces anecdotes beaucoup d'histoires qui relèvent du merveilleux. Par exemple, toutes les histoires de confrontation avec des djinns dans l'anté-islam relèvent aussi de cet adab. De même, les anecdotes de certains califes, dans lesquels apparaissent des faits merveilleux ou qui s'en approchent, font partie de cet adab.
Et puis, toutes ces contrées peuplées d'animaux fabuleux, de monstres, en tout cas ce qui frappe l'imaginaire. On le retrouve dans cette littérature.
Oui, tout à fait.
Oui, je vous en prie.
Oui, il y a même en fait des types de textes assez spécialisés dans ces merveilles qu'on appelle les Kitab al-Ajaib, donc le livre des merveilles, qui répertorie les merveilles des différents pays. Donc ce sont les monuments les plus anciens qui souvent sont réputés abriter des talismans très puissants, mais aussi les animaux fabuleux ou les plantes merveilleuses et leurs bénéfices pour la santé ou pour d'autres usages.
Alors, il y a parmi ce que la postérité a retenu, même ceux qui ne s'intéressent pas au monde islamique, des penseurs ou des philosophes, même comme Al-Kindi, ou un peu plus tard comme Ibn Khaldoun, rapportent dans leurs écrits ces choses qui relèvent des sciences occultes et du merveilleux.
Al-Kindi pose également un problème. Il y a un traité qu'il aurait écrit sur les rayons qui a connu une traduction latine qui nous est bien connue, qui est un traité de magie, mais dont l'original arabe, jusqu'à présent, est perdu. Et on en vient parfois même à douter de l'existence d'un original arabe. Donc c'est assez difficile de traiter de la magie avec Al-Kindi dans des sources arabes. En revanche, Ibn Khaldoun en parle abondamment, effectivement.
Oui, Ibn Khaldoun, 1334-1406, je donne toujours les dates comme ça pour que nos auditeurs puissent les repérer dans le temps.
Ibn Khaldoun n'est pas tout à fait un philosophe, c'est plutôt
un historien, et pour certains, il serait le précurseur de la sociologie. Nous n'allons pas nous appesantir sur des choses de cet ordre. Parlez-nous, s'il vous plaît, Jean-Charles Coulon, du Picatrix.
Alors, le Picatrix est sans doute le plus célèbre traité de magie arabe. C'est un traité qui a une histoire assez particulière, qui remonte donc à l'Andalous au Xe siècle, où Maslama al-Qurtubi, qui est mort en 964, après un long voyage en Orient, aurait écrit donc sans doute à la cour de Cordoue, cet ouvrage de sciences occultes qui s'appelle Rayat al-Hakim. En réalité, il a composé...
Le but du sage,
oui. En fait, il a composé deux traités de sciences occultes. Le premier, Rutbat al-Hakim, donc l'échelle ou l'échelon du sage.
Le degré du sage.
Qui est un traité d'alchimie. Et le second, Rayat al-Hakim, donc le but du sage, qui est consacré à la magie et aux sciences occultes. En fait, il concevait ces deux ouvrages comme complémentaires et comme peut-être un complément aux épîtres des frères de la pureté, les Rasa'il Ikhwan as-Safa.
Alors, on reviendra tout à l'heure, si vous le voulez bien, aux frères de la pureté, une société savante, une société qui s'intéresse à des choses occultes dans leurs épîtres, leurs 52 épîtres. Et la 52e, qui peut-être n'est pas nécessairement la dernière, est réservée en quelque sorte aux sciences occultes. Encore peut-être un mot sur Maslama al-Qurtubi. Al-Qurtubi, c'est le gentilé de Cordoue. Hein. Maslama est de Cordoue. Pourquoi on l'a traduit en Picatrix? Vous avez une idée ou pas? Ou c'est ainsi?
Alors, il y a plusieurs hypothèses. Alors, pour revenir d'abord sur la traduction, il a été traduit d'abord en castillan et ensuite au milieu du XIIIe siècle en latin sous ce titre de Picatrix. Il y a eu beaucoup d'hypothèses sur ce nom-là. Alors certains pensent que c'est une traduction assez maladroite du nom de Maslama qui en fait désigne une sorte d'oiseau et que Picatrix serait un dérivé de Picaré et qu'il y aurait eu donc une sorte de tentative de traduction du nom de l'auteur. L'hypothèse la plus ancienne, c'est que Picatrix serait une déformation du nom d'Hippocrate en arabisé et ensuite donc latinisé en Picatrix, mais qui est... également une hypothèse un peu difficile à défendre. Donc on n'a que des hypothèses, mais on n'a pas de, de certitude sur ce nom de Picatrix qui a connu une grande postérité, puisque Rabelais parlait du révérend père Picatrix, qui a une sorte de maître sorcier démoniaque dans ses œuvres.
Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Jean-Charles Coulon, qui est chargé de recherche à la section arabe de l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes. Vous êtes historien des sciences occultes, hein, Jean-Charles Coulon, et en cette année d'anniversaire de l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, nous avons cru bon de parler des textes rapportant la magie et les sciences occultes en terre d'islam, tout particulièrement au Moyen-Âge. Dans cette deuxième partie, quelles sont les sources qui s'inscrivent directement dans les références scripturaires religieuses cette fois-ci, et comme pour les musulmans, la source fondamentale et première étant le Coran, que dit l'écrit coranique à propos de la magie?
Alors, le Coran traite de magie en plusieurs endroits, soit de manière directe, soit de manière indirecte. Alors, le principal verset qui traite de la magie, c'est le verset 102 de la deuxième sourate, la sourate de la vache, qui est
facile à retenir, 202.
Oui. Et qui est aussi appelé le verset de Harout et Marout, puisqu'il raconte comment les deux anges déchus, Harout et Marout, à Babylone, enseignent aux hommes l'art de tenter autrui et donc la magie pour séparer les époux. Donc là, c'est le principal verset qui traite directement de magie. Donc le terme arabe, c'est sihr, qui est présenté donc comme un moyen de semer la désunion. Il est question également de magie dans d'autres endroits, par exemple la confrontation de Moïse et des magiciens de Pharaon. Donc là, il est question plus de magiciens que de magie à proprement parler. Enfin, il y a toutes les accusations de sorcellerie à l'encontre des prophètes par les peuples auprès desquels ils étaient envoyés. Et enfin, on a quelques autres références à la magie, notamment dans les deux dernières sourates, qu'on surnomme les sourates préservatrices, Al-Mu'awwidhatayn, qui sont des sortes d'invocations contre les différents maux. Et parmi les maux contre lesquels luttent ces sourates, il y a le mal de celle qui souffle ou qui crache sur les nœuds.
Oui, deux ou trois petites choses dans ce que vous dites, Jean-Charles Coulon. D'abord, la question de ces deux anges. Dans l'univers coranique et dans ses propres références, dans l'autoréférence coranique, ce sont des anges déchus. Pour d'autres observateurs et d'autres anthropologues du fait religieux, ce ne sont peut-être pas nécessairement des anges. Donc il y a peut-être une question là-dessus. Et ça donne donc à la magie, mais dans un but plutôt malveillant. Donc le fait de séparer, entre autres, les époux, et pour quelle raison?
Alors, c'est une question très intéressante. Effectivement, cette question des anges déchus a beaucoup fait couler l'encre des théologiens, puisqu'évidemment, théoriquement, un ange ne commet pas le mal. Toutefois, le Coran dit bien Al-Malakayn, donc les deux anges, et il n'y a pas d'autre interprétation. Cependant, quand on lit par exemple l'exégèse d'At-Tabari, donc le grand théologien mort en 923, il explique à propos de ce verset que la première lecture qu'on serait tenté de faire, c'est Al-Malikayn, donc les deux rois, plutôt qu'Al-Malakayn. Donc il rapporte plusieurs anecdotes de gens qui soutiennent qu'il s'agissait de deux rois d'avant l'islam qui s'adonnaient à la magie, avant de dire le Coran dit bien Malakayn et donc ce sont deux anges. Il rapporte donc l'histoire de ces deux anges qui en fait s'inscrit dans la question de la nature des anges et de leur de leur capacité à interagir avec la création. Notamment, l'anecdote raconte que les anges, en voyant les hommes commettre des péchés en grand nombre ici-bas, auraient demandé à Dieu pourquoi il leur avait demandé de se prosterner devant cette création si imparfaite. Et donc Dieu leur aurait affirmé que s'ils étaient soumis au même univers que les hommes, avec les mêmes désirs et les mêmes tentations, voilà, ils pécheraient tout autant.
Il y en aurait eu 10 particulièrement de ces tentations.
Oui, 7 ou 10, ça dépend des versions. Et donc Dieu leur demanda de choisir donc deux parmi les anges les plus pieux qu'il ferait descendre sur terre avec les mêmes appétits que l'être humain pour observer si effectivement ils pécheraient ou non. Donc les deux anges choisis auraient été Harout et Marout. Donc les versions ensuite diffèrent quelque peu. Globalement, l'histoire dit que donc ces deux anges descendaient pour gouverner sur terre et revenaient le soir grâce à un nom magique que Dieu leur avait donné pour pouvoir remonter. Et ils auraient d'abord gouverné avec justice et sagesse jusqu'à ce qu'une femme vienne se plaindre de son époux auprès d'eux et ils seraient tombés éperdument amoureux sous l'effet de sa beauté. Et finalement, c'est pour la séduire qu'ils auraient commis des actes impies à son instigation. Alors l'histoire très souvent identifie cette femme qui serait venue les consulter à Vénus, donc au summum de la séduction et de la beauté, qui serait donc en quelque sorte la tentatrice.
Dans la version longue de cette histoire merveilleuse, j'allais dire dans tous les sens du terme, c'est que elle leur avait demandé de leur indiquer le moyen de monter au ciel. Oui. Et finalement, elle les laisse un peu patienter et du coup, elle n'est plus redescendue, elle est restée dans le firmament. Comme étant Vénus.
Effectivement.
Ce qui a poussé quelques hommes pieux, dans leur dévotion populaire, de se méfier de Vénus quand ils la voyaient indépendamment de ça, comme un astre.
C'est notamment un propos qui est rapporté dans l'exégèse du fils de Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam, qui disait chaque fois qu'il voyait Vénus, qu'il la maudissait pour avoir détourné Harout et Marout.
Donc c'est Abdallah, fils d'Omar.
Oui.
Passons à ces deux dernières sourates, petites sourates, dans la présentation du Coran actuellement, dans l'ordre décroissant des versets, elles se trouvent à la fin. Pour un compilateur comme Ibn Mas'ud, elles n'avaient pas à faire partie du corpus. Pour la doxa droite, ce sont deux sourates du Coran. Et on les appelle les préservatrices du mal notamment. Oui. Quelles sont ces femmes qui projettent, qui soufflent, qui crachent, même si ce n'est pas une grande quantité de salive, sur les nœuds. Les nœuds de quoi? Des talismans
Oui, tout à fait. En fait, les nœuds désignent effectivement des sortilèges ou des talismans. On retrouve la même chose en fait en latin, où le fait de nouer désigne un sortilège. Et en arabe, donc « acte » est devenu synonyme également de « sortilège ». Il y a même des sortilèges spécialisés qui portent ce nom-là. Par exemple, les sortilèges visant « aqd al-lisan », donc le fait de nouer la langue, et donc de tenir les propos de quelqu'un pour l'empêcher de nuire par la parole.
Et c'est aussi la prière faite par Moïse pour que sa langue puisse devenir fluide et oui. Que le nœud qui la retient... allusion faite au fait qu'il était bègue. Donc c'est cette prière, oui. C'est pour revenir au mot que vous avez utilisé, le fait qu'il y a un nœud, oui. que c'était noué.
Tout à fait. Défaire un sortilège, justement, c'est dénouer le sortilège également. On le voit, il y a un hadith sur l'ensorcellement du prophète. Donc il y a plusieurs versions de cet épisode de l'ensorcellement du prophète. Et dans l'un d'eux, il va donc au puits où est enterré le sortilège, où il trouve donc une sorte de corde avec différents nœuds, et c'est là que les deux sourates auraient été révélées, et chaque fois qu'il prononçait un verset, un nœud se défaisait du sortilège. Ça, c'est une des versions du...
Oui, ce hadith ou cette hadith. Parole était rapportée par Aïcha.
Oui.
Et on lit ces sourates, ces toutes dernières sourates, encore une fois dans la dévotion populaire et dans la piété générale islamique, pour se prémunir des méfaits, des maladies, du mauvais œil aussi.
Oui, tout à fait. Oui, le mauvais œil, c'est ce dont il est fait allusion dans le dernier verset de la sourate 113. Donc, c'est l'œil de l'envieux qui envie. Donc, c'est effectivement le mauvais œil qui serait désigné ici dans ce verset. Donc, ces deux sourates sont très utilisées comme protection contre effectivement les maladies, contre les sortilèges, contre toutes sortes de malheurs qui peuvent arriver aux croyants.
Alors, poursuivons encore, si nous devions nous référer exclusivement au texte fondateur, donc au Coran, il y a tout le passage sur le bâton de Moïse, finalement, et sa confrontation avec les mages, les magiciens de Pharaon.
Oui.
Et là, de ce point de vue-là, cette potentialité, cette possibilité, cette puissance même qu'a Moïse, fait que l'aspect magique n'est plus dépréciatif.
Alors, en fait, cet épisode-là était abondamment commenté. Il s'agit en fait du recours à la puissance divine contre la magie. Donc, c'est effectivement, Moïse n'est pas considéré comme magicien, à ceci près que les sources indiquent qu'il était perçu comme magicien du fait qu'il luttait contre les magiciens. Et le sens de sahir dans le Coran, d'après les lexicographes, dans ce contexte, est en réalité un synonyme de halim, donc de savant. Ce que disent les théologiens et lexicographes, c'est que les magiciens dans l'Égypte antique étaient de très grands savants et c'était les conseillers du souverain. Et donc que sahir, le magicien en arabe, prend dans ce contexte le sens de savant, sous-entendu savant à la cour de Pharaon.
Bien que le nombre des magiciens, cette fois-ci de Pharaon, ne soit pas spécifié, mais on voulait le donner sous forme d'un grand nombre pour que la victoire de Moïse soit éclatante.
Oui. Alors certaines sources, surtout les sources sur l'histoire égyptienne, expliquent que les magiciens de Pharaon étaient, donc les chiffres diffèrent, souvent c'est plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers, et que lorsque Moïse parvint donc à défaire les magiciens de Pharaon, tous les magiciens d'Égypte se seraient convertis et il n'y aurait jamais eu de conversion aussi massive dans l'histoire des monothéismes dans certaines sources arabes égyptiennes.
Et on parle beaucoup, bien entendu, du bâton de Moïse qui aurait des prodiges, des vertus. Si Moïse le plantait, il donnerait des fruits.
Oui.
Mais tout ça, ça donne... C'est une manifestation miraculeuse de la puissance divine.
Tout à fait. En fait, il y a beaucoup effectivement d'histoires et d'anecdotes sur le bâton de Moïse. Certaines sources disent que ce serait une des branches de l'arbre du jardin d'Éden, l'arbre de vie. Et c'est pour cela également qu'il a beaucoup intéressé les auteurs en sciences occultes, puisqu'ils se sont interrogés sur la provenance du pouvoir du bâton de Moïse. Donc, dans les traités de sciences occultes plus tardifs, surtout à partir du XIIIe siècle, on voit que le bâton de Moïse est réputé avoir le plus sublime nom de Dieu, c'est Ismala al-Azam, donc le plus grand nom divin, et que c'est grâce à ce nom-là qui était gravé sur le bâton qu'il parvenait à faire tous ses miracles. Et donc, souvent, ces auteurs disent que c'est le nom du bâton de Moïse, mais aussi celui du sceau de Salomon, celui qui était sur la langue de Jésus, ou... très présent chez beaucoup d'autres prophètes et grâce auxquels ils pouvaient accomplir leurs miracles.
Alors à l'évocation de Salomon, on passe à un autre épisode tout aussi extraordinaire dans son sens premier. C'est quoi cette affaire avec la reine de Saba qui en un clin d'œil se voit transportée avec son trône auprès de Salomon?
Alors c'est une histoire également qui a... donné lieu à beaucoup de commentaires. C'est dans ce contexte-là qu'apparaît l'Ifrit dans le Coran, Ifrit, qui est donc un djinn en particulier et qui est devenu progressivement une espèce de djinn à part entière. C'est-à-dire que le terme désigne un djinn en particulier dans le Coran, alors que va être forgé un pluriel et il va devenir une catégorie de djinn, al-Rafarid, donc les Ifrit, par la suite. Donc cette question du trône de Saba, effectivement, relève également du merveilleux, puisque le trône de la reine de Saba aurait été transporté en un clin d'œil devant Salomon.
En réalité, mais c'est vous qui savez ces choses-là, c'est plus une sorte de mini-discussion qui peut me rapporter, ça c'est Salomon qui parle, me faire venir cette reine. Et puis, il y en a un du nom de Asif, oui. Et qui lui dit, moi je pourrais te la ramener avant même que tu rouvres ton œil, c'est-à-dire en clignant des yeux.
Oui.
Alors qu'il y avait une suggestion qui était, bon, je te la ferai venir assez rapidement, mais ce n'était pas aussi rapide qu'un clin d'œil.
Oui. Asaf ibn Barakhia, en fait, c'est le vizir de Salomon dans la tradition coranique. Et il est censé être l'auteur de la plupart des traités de magie attribués à Salomon. Notamment, At-Tabari explique que c'est lui qui aurait compilé de très nombreux traités de magie.
At-Tabari étant cet exégète et historiographe mort en 923.
Oui.
Mais toutes ces choses-là se faisaient avec la permission de Dieu.
Hein, oui,
Domino permittente, auraient dit les auteurs latins.
C'est la même chose pour Harut et Marut, justement. Le verset dont on a parlé, dans le verset coranique, indique qu'ils ne peuvent faire, ils ne peuvent nuire qu'avec la permission de Dieu. Et c'est un leitmotiv dans les traités de magie arabe. Tous les rituels ne fonctionnent qu'avec la permission de Dieu.
Oui, ça posera la question éminemment théologique, mais comment se fait-il que Dieu permettrait qu'il y ait du mal, fût-ce momentanément, peut-être pour des leçons édifiantes, donc ou même pour quelques koans, auraient dit les bouddhistes, un peu comme l'enseignement de Moïse par cet être mystérieux, Al-Khadir, qui se trouve aussi dans le Coran, qui lui enseigne par l'absurde.
Oui.
Donc, c'est aussi tout un autre sujet. Passons maintenant, si vous voulez bien, Jean-Charles Coulon, à la guérison par la parole, ou à le fait d'exorciser l'exorciseur. Il y a eu des cas où quelqu'un qui aurait été ou été possédé, donc notamment par les djinns, et il suffisait de lire des versets coraniques, ou en tout cas il y a une vertu thérapeutique ou d'exorcisme par la parole.
Oui,
qui est un terme spécifique en arabe.
Oui, c'est ce qu'on appelle la ruqya, donc qu'on pourrait traduire par incantation prophylactique. Il s'agit donc d'un rituel principalement oral, avec une gestuelle particulière, donc qui peut différer selon les hadiths, et par lequel on expulse un mal de quelqu'un ou d'une institution. Donc très souvent, elles sont utilisées pour guérir les maladies, mais sont également utilisées pour chasser les djinns ou même pour chasser les serpents hors d'une maison. Enfin, il y a beaucoup d'usages à la ruqya.
La ruqya, encore une fois, le terme arabe qu'on traduit, comme vous le faites si bien, par incantation prophylactique, par des paroles propitiatoires en réalité. De nos jours, ça ne fragilise pas trop les esprits de continuer à croire que par cette parole magique, finalement, on chasse les mauvais esprits. Bon, ça, ils sont immatériels, mais même les serpents ou les scorpions.
Oui. Alors, Al-Jahiz, dans le Kitab al-Hayawan, raconte une anecdote, une explication très intéressante sur l'usage.
Al-Jahiz est mort en 868. C'est un prosateur et polygraphe. Et dans son livre, Les animaux.
Oui.
Donc, voilà. Vous avez dit al-Hayawan ou les êtres vivants, oui.
Oui, effectivement, les êtres vivants, parce qu'ils traitent à la fois des animaux, mais aussi de tous les êtres invisibles, comme les djinns, par exemple. Et donc, dans le Kitab al-Hayawan, le livre des êtres vivants, il explique que la ruqya sert à faire sortir donc les serpents des maisons, mais qu'en réalité, les serpents sont sourds, et donc que la ruqya s'adresse aux djinns domestiques, donc à Amir, qui va, lui, chasser les serpents de la maison. Donc la ruqya reste toujours en rapport ici avec les djinns plus qu'avec les serpents.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de magie, de sciences occultes, avec Jean-Charles Coulon, qui est chargé de recherche à la section arabe de l'Institut de recherche et d'histoire des textes. Vous êtes spécialiste des sciences occultes vous-même, Jean-Charles Coulon. Et en cette année d'anniversaire, puisque l'IRHT, l'Institut de recherche et d'histoire des textes, fête ses 80 ans. Vous parliez de la ruqya, un terme arabe, qu'on utilise d'ailleurs de nos jours, qui, je le reprécise, veut dire incantation prophylactique, donc qui préserve, qui prévient par des paroles, par le verbe. Il n'y a pas eu une sorte d'approche contradictoire, parce que d'aucuns disent que le prophète lui-même l'utilisait, et en même temps, il en était très, très circonspect.
Oui, tout à fait. En fait, la ruqya, on le voit aujourd'hui comme un rituel religieux, alors qu'en réalité, à l'époque, c'était plutôt un rituel médical ou prophylactique. Il s'agissait d'actes de guérison, donc qui n'étaient pas attachés spécifiquement à une religion. Et d'ailleurs, l'utilisation d'invocations et de prières faisait pleinement partie de la médecine, dans l'Antiquité, que ce soit chez les Grecs, les Persans ou les Indiens. Et Georges Dumézil en a traité dans ces ouvrages-là. Donc il s'agissait d'abord d'un rituel de guérison qui était utilisé, donc qui n'était ni islamique ni païen, mais qui était utilisé. Ensuite, le prophète, effectivement, a utilisé lui-même des ruqya. On a des hadiths où il accomplit des ruqya, avec des formules d'ailleurs qui ne sont pas des formules coraniques, mais qui souvent ressemblent aux deux dernières sourates. Elles ont parfois le même rythme, la même structure et des éléments assez proches. Cependant, il y a également des hadiths où il a un certain recul par rapport à la ruqya, notamment un hadith où il décrit les croyants qui iront au paradis. Et parmi ceux qui iront au paradis, il y a ceux notamment qui ne demandent pas des ruqya à une tierce personne. Donc on voit ici qu'il y a une certaine méfiance. D'une manière générale, ce qui rend licite la ruqya, c'est l'usage qu'on en fait et les conditions de son utilisation.
Vous ne pensez pas, Jean-Charles Coulon, que toute cette littérature autour de cette incantation prophylactique est venue après coup, comme une sorte de construction humaine un peu tardive, où elle plonge ses sources du vivant même du prophète et elle s'appuie sur ses aphorismes, ses maximes et ses propos?
En fait, l'existence de la ruqya dans l'anté-islam me semble plus que probable, puisqu'on en a des traces déjà dans le Coran. On a un verset qui demande Man Raqin, donc qui est l'incantateur qui pourra lutter contre la mort, donc sous-entendu personne. Et également, donc dans la tradition islamique, on en a vraiment énormément de cas qui sont liés au prophète. Donc ça devait être un élément qui était très présent du vivant du prophète, auquel il a été confronté. Et avec la question, est-ce qu'on peut la perdurer? Est-ce que c'est un rituel qui va à l'encontre, effectivement, de la volonté divine, ou au contraire, qui peut aider les croyants et qu'il faut maintenir, et voire islamiser, puisque les formules ont dû évoluer quelque peu avec le prophète. Il est probable que certaines formules qui étaient utilisées n'étaient pas forcément compatibles avec le Coran, d'où la suspicion de magie, justement, en utilisant la ruqya.
Et ce verset que vous avez évoqué, y a-t-il un guérisseur ou un exorciseur? De mémoire, ce serait peut-être le verset 27 de la sourate 75, celle de la résurrection,
où,
avec des versets qui se suivent en désassonance, c'est lorsque la jambe se retourne autour de l'autre jambe, et on entend, y a-t-il un guérisseur ou un exorciseur? La jambe qui se retourne autour de l'autre jambe, c'est-à-dire que ça y est, maintenant on est étendu, on est gisant.
Oui.
Mais l'appel qui reste sans réponse, y a-t-il un guérisseur ou un exorciseur ou en tout cas quelqu'un qui puisse redonner vie ou ranimer cette dépouille mortelle, donne par cette allusion une idée que on utilisait donc la ruqya par la parole, donc une sorte de guérison par la parole, mais la suspicion peut y demeurer. Donc tout dépend de l'objet pour lequel on invoque la parole divine, notamment.
Tout à fait, oui.
Mais pas que. Dans cette dernière partie, Jean-Charles Coulon, nous essayons de voir, à titre personnel, j'étais intéressé par les figures féminines et la magie. Non qu'il faille nécessairement rattacher les femmes à la magie, avec toute l'histoire de la sorcellerie, mais il y en a une particulièrement qui s'enracine ou s'origine dans la période anti-islamique, mais qui a peuplé l'imaginaire des musulmans, quels qu'ils fussent, à travers l'histoire et peut-être même maintenant, quels qu'ils soient, qui est une femme du nom de Zalqa.
Oui, tout à fait, Zalqa al-Yamama.
Celle qui a les yeux bleus.
Voilà, ça, c'est celle qui a les yeux bleus, littéralement, et qui vient de la Yamama.
La localité ou la contrée al-Yamama, qui existe même de nos jours.
En Arabie, dans la péninsule arabique.
Alors, qui est-elle, cette femme ?
Alors, il s'agit d'un... On la qualifie parfois de Cassandre arabe. Donc, c'est une figure de l'anté-islam, donc qu'on connaît principalement par des sources islamiques d'époque abbasside, qui aurait eu son histoire dans le contexte de guerre intertribale.
On est fin 5e siècle de notre ère, dans la péninsule arabique.
Oui. Oui, Zalqa al-Yamama donc avait changé de tribu lors de son mariage, aurait épousé un membre d'une tribu qui commence à faire la guerre avec son ancienne tribu dans le cadre d'une grande confédération tribale. Et donc elle avait un pouvoir qui était celui de voir à une très longue distance de marche. Donc tous les auteurs ne sont pas d'accord, généralement c'est 3 jours de distance de marche à peu près qu'elle pouvait voir les choses arriver. Et donc son ancienne tribu partir en guerre avec sa nouvelle tribu et connaissant le pouvoir de Zalqa, auraient décidé donc de cacher leur armée derrière des arbustes. Donc ils avançaient cachés derrière des arbustes. Et donc Zalqa al-Yamama informe la tribu de son époux que les arbres sont en train de se rapprocher et on la prend pour folle. Et donc ça a permis à son ancienne tribu de massacrer la tribu de l'époux de Zalqa al-Yamama. Ensuite, l'histoire nous raconte qu'elle aurait été donc capturée, crucifiée, nucléée. Toutes les histoires ne sont pas d'accord. Mais en tout cas, il y aurait eu donc des discussions sur l'origine de son pouvoir, puisqu'on aurait vu des sortes de fibres noires dans ses yeux après les lui avoir retirées. Et ce que disent les auteurs, c'est qu'en réalité, c'était dû au collyre qu'elle se faisait, puisqu'elle serait l'inventeuse du kohl.
Et donc le kohl. Ou de l'antimoine.
Oui, de l'antimoine, qui était la substance utilisée pour le collyre.
Oui, alors elle aurait, moi je ne le sais pas, vous peut-être le savez mieux que moi, un œil plus grand qu'un autre.
Oui, ou certains les yeux de couleurs différentes. Donc ça fait partie des éléments merveilleux pour enrichir son histoire. Tous les auteurs ne donnent pas les mêmes informations. Certaines histoires disent qu'en réalité un de ses époux était un djinn, d'autres qu'elle était la sorte de prêtresse de la lune. Donc il y a beaucoup d'éléments qui ont été ajoutés et qui ont enrichi cette histoire-là. Ce qui est intéressant également, c'est que cette recette de l'antimoine, en fait, est quasiment une recette magique, puisqu'elle permet d'avoir une vision perçante qui est devenue proverbiale, puisqu'on dit « Absar min Zalqa al-Yamama », donc plus perçant, plus clairvoyant ou à la vue plus aiguisée que Zalqa al-Yamama.
Oui, ça c'est le vieil adage arabe qui reste jusqu'à présent. Et donc... Zalqa al-Yamama est ou serait celle qui, pour la toute première fois, a utilisé, donc c'est elle qui est la première, a fait usage du kohl pour les yeux, indépendamment de l'histoire merveilleuse qui concerne sa vue perçante.
Oui.
Jean-Charles Coulon, j'aimerais bien, si vous voulez bien vous-même, parler des frères de la pureté.
Oui, tout à fait.
Donc, qui sont-ils avec leurs épîtres? On ne sait pas, parce qu'ils ont cultivé plutôt le secret. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier dans leur dernière épître? Ils en ont produit 52, donc la 52e épître.
Oui. Alors, les Frères de la Pureté, effectivement, les Ikhwan as-Safa, sont un groupe de pensée irakien du 10e siècle qui sont à la fois très célèbres par leur production et finalement assez méconnus, puisqu'on n'a pas d'idée vraiment exacte de leur identité. Il y a plusieurs hypothèses sur leur identification, mais finalement, on n'a pas de preuves totalement tranchées sur leur identité.
Donc, on dit qu'un certain Tawhidi a révélé quelques noms de ceux qui composaient cette société savante secrète.
Oui, et qui sont en contradiction avec d'autres sources, donc c'est pour ça qu'il faut rester prudent sur leur identification. Sans compter que d'autres mouvements plus tardifs se sont fait appeler aussi Ikhwana Safa, notamment au XIVe ou XVe siècle. On parle de néo-Ikhwana Safa pour ces nouveaux...
Ikhwana Safa qui veut dire les frères de pureté et les amants de la sincérité, hein, l'appellation exacte.
Oui. Tout à fait. Donc leurs épîtres, les Rasa'il, sont un ensemble de 52 épîtres, dont la dernière est effectivement consacrée à la magie et aux sciences occultes. Donc il s'agit d'une grande compilation à la fois sur la magie et de magie, puisqu'il donne beaucoup d'éléments, d'extraits de textes de sciences occultes attribués à Hermès ou à d'autres auteurs.
Hermès, trois fois grand, comme ils disent eux-mêmes. En conclusion, Jean-Charles Coulon, y a-t-il des traces ou une réactivation de ces histoires merveilleuses ou relevant de la magie, de la sorcellerie de nos jours dans les contrées islamiques?
Oui, tout à fait. La magie est encore présente. D'ailleurs, on trouve les éditions tardives du Shams al-Ma'arif al-Kubra dans beaucoup de bonnes librairies.
Donc le soleil...
Le grand soleil des connaissances, oui. Lorsque... Oui, d'Al-Bouni, attribué à Al-Bouni, puisqu'il n'en est pas l'auteur. Mais c'est un livre que l'on trouve dans beaucoup de bonnes librairies. Lorsque je vivais à Damas, notamment, je pouvais trouver ce Shams al-Ma'arif al-Kubra dans des librairies religieuses à côté des livres de hadith ou du Coran. Donc c'est encore des ouvrages très diffusés. Généralement, les ouvrages diffusés, c'est de type Shams al-Ma'arif, donc une magie plutôt coranique, puisqu'on y fait appel au nom divin, au verset coranique, et pas vraiment de magie astrale comme le Rayat al-Hakim qui est plus rare à trouver.
Rayat al-Hakim, toujours encore, c'est le but du sage. Et Shams al-Ma'arif, c'est le soleil ou le grand soleil des connaissances. Si nous avions un peu plus de temps, nous aurions parlé de Geber, de Jabir, et d'alchimie, des carrés magiques, des choses de cet ordre. Nous le ferons peut-être une autre fois. Merci beaucoup Jean-Charles Coulon de nous avoir... édifié par vos propos sur toutes ces sciences occultes qui le sont peut-être un peu moins maintenant. C'était Question d'Islam. Vous retrouverez, chers amis auditeurs, toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attaché de production est Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Philippe Bredin. La réalisation est toujours assumée par Franck Lilin.
Mazohra.